Voilà, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour le simple fait d'être là. Hein. C'est extraordinaire. Nous savons que dans d'autres endroits, il n'est pas aussi facile de se réunir et avec la même liberté. Et nous sommes heureux d'être là. Comme vous le savez, nous sommes dans le jargon missionnaire, nous sommes une œuvre pionnière. Hein. C'est une église en formation petit à petit, nous voulons établir les bases pour pouvoir avoir une vie d'église, intentionnée, être une œuvre intentionnée. C'est-à-dire, on est conscient dans tout ce qu'on fait. Hein, ce n'est pas des habitudes, ce n'est pas une église baptiste, ben c'est comme ça, puis tous les baptistes font comme ça. Non, on veut que on sache pourquoi on fait chaque chose et que ça soit vraiment, on est conscient dans chaque acte. Hein, la vie chrétienne, elle se vit. C'est pas qu'elle se pratique comme on pratique une religion, mais elle vit et chaque aspect est intentionné et chaque aspect est important. Hein. Et donc, nous voulons et nous espérons dans les mois à venir hein, de commencer à servir la table du Seigneur et nous avons l'intention d'avoir des baptêmes et le Seigneur prépare, c'est des commandements que le Seigneur a donnés pour l'Église, alors nous voulons aller dans ce sens et puis voir une Église s'établir avec des responsables et devenir une Église mature. Hein, donc c'est cette vision qui nous conduit parce que c'est l'ordre du Seigneur et il nous a dit d'aller par toutes les nations et de faire des disciples. Des disciples. Il n'a pas dit faire des croyants, il n'a pas dit faire des chrétiens, il a dit faire des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit le maître, qui pratique, qui reproduit le maître. Hein, donc, ce n'est pas juste une question d'appartenance. On peut appartenir à ce groupe et être perdu, comme on peut être ailleurs et être au Seigneur. Hein, et dans cette intention-là, bien, je vais prendre encore une prédication sur la table du Seigneur. On en a fait une déjà au mois de janvier. Et je reprends ce passage. Donc, si vous voulez ouvrir vos Bibles, dans 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens, chapitre 11. Je vais lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 32. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 11, nous savons qu'il y a eu des problèmes particuliers qui s'étaient développés dans cette église. Paul ne met pas en doute qu'ils sont chrétiens parce qu'il commence la lettre en les appelant des saints. Hein, saints parce que Dieu les a choisis. Mais ce n'est pas parce qu'on est chrétien que tout ce qu'on fait est juste. Et c'est dans cette intention-là que nous avons besoin d'enseignement, d'exhortation et nous avons bien besoin de purifier nos vies, nos actes, et c'est pas parce que on a toujours fait comme ça qu'on continue à faire, non, on veut savoir pourquoi, et chaque acte est un acte conscient. Donc vous êtes au verset 17, hein, 1 Corinthiens chapitre 11 verset 17, il dit « En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » Au moins ils s'assemblaient. Mais il dit, le résultat est négatif. Et donc, on ne va pas fermer l'église pour cela. Il a dit, on va corriger, on fait des corrections. Verset 18. « Et d'abord, j'apprends que, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. » Donc, verset 20, « Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien ?» Que vous dirais-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Et maintenant, voilà comment ça doit se passer. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou qui boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Alors, bien sûr, la table du Seigneur, nous ne voulons pas la célébrer comme certains célèbrent Noël. Hein, vous savez, Noël, il y en a que... ils ont retenu que l'aspect fête de Noël. Hein, ils font la fête, et puis ils oublient pourquoi ils font la fête. Et puis après, il y a ceux qui mettent l'importance sur l'aspect natalité, hein, la naissance du Sauveur, et qui reconnaissent cela. Et donc aussi, la table du Seigneur n'est pas un rite chrétien, mais c'est un moment d'évaluation, c'est un moment de commémoration, c'est un moment de réflexion. On s'arrête et on médite. Il veut que ce soit un acte conscient. Je sais que parfois, vous savez, ça nous arrive, on a tellement l'habitude de se mettre à table. Maman, elle a travaillé pendant une heure pour préparer le repas. On vient à table, on prend ça, on mange, on est en train de penser à autre chose. On est en train de regarder au téléphone, puis on s'en va, on ne fait même pas conscience, on ne dit même pas merci. Mais c'est encore pire avec la table du Seigneur. Hein, où on n'est même pas conscient de comment ça a été préparé, pourquoi c'est là, qui l'a préparé, ce que ça a coûté. On ne prend pas le temps. Mais la table du Seigneur, c'est un moment de réflexion. Et les réflexions, non pas... Vous avez remarqué que dans les versets 23 à 27, il n'a pas dit « Voilà comment vous devez faire, il faut que ça soit une grosse coupe, que ça soit une petite coupe, que ça soit le pain il soit coupé en morceaux, que ce soit un pain ceci, cela. » Ce n'est pas les détails qui importent. Et parfois, des fois, on est là en train de critiquer, d'évaluer cette église. Ouais, j'aime pas comment ils le font. Ça n'a rien à faire avec comment elle le fait. C'est l'état de la personne qui participe qui est important. Et c'est là où il met l'importance. C'est celui qui prend part à la table du Seigneur qu'il faut évaluer, pas comment la table est servie. Sachez-moi, j'ai assez voyagé pour voir toutes sortes de manières. Encore dernièrement, là, quand j'étais aux États-Unis, j'ai vu encore une autre manière de servir la table. Mais vous savez, c'est pas la manière. C'est le fait que je commémore le sacrifice de Jésus-Christ qui importe. Et donc, c'est un moment d'évaluation de soi-même. Ce passage, comprenez qu'il parle de deux repas hein, dans ce passage. Et ça peut prêter à confusion. Il y a l'agape. L'agape, c'est-à-dire le repas d'amour. Et c'est ces repas fraternels que les chrétiens prennent ensemble. Et puis après, il y a le repas du Seigneur. Les deux sont mentionnés. Ils sont mentionnés ensemble. Pourquoi ? Parce que la pratique, apparemment, dans l'église de Corinthe, on faisait ça en même temps. pendant qu'on faisait le repas fraternel, eh bien, il y a un moment où on célébrait la table du Seigneur. Et donc, dans un sens, ça créait même de la confusion. On ne savait pas où l'un commençait et l'autre terminait. Et puis, bien sûr, tout le monde n'était pas le même état. Et le problème, c'est que l'un, il avait pas mangé du tout, et puis l'autre, il avait trop bu. Hein, donc, ça ne convient pas du tout à la célébration du repas du Seigneur. Donc, il souligne le fait que les choses doivent se faire avec ordre. Il dit au verset 33, « Ainsi, mes frères, lorsque vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres, que ce soit avec ordre. » On est peut-être des brebis du Seigneur, mais on ne doit pas se comporter comme des moutons. Hein. Et même dans le chapitre 14, verset 40, il dit « Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » Le Seigneur, vous regardez la nature et on voit que c'est un Dieu d'ordre. Alors si la nature, si l'univers est... Une des caractéristiques principales, c'est qu'il y a de l'ordre, et bien combien plus dans cette création qu'il a faite, l'Église de Jésus-Christ, le corps de Christ, ça doit être un lieu, tout de suite, vous avez vu qu'il a marqué, il a dit, vous avez des divisions. Ça, ce n'est pas caractéristique de Dieu. La caractéristique de Dieu, c'est l'ordre. Et donc, même dans la table du Seigneur, et dans tout ce que nous faisons pour le Seigneur, tout doit se faire dans l'ordre, et dans l'ordre, il y a la paix, il y a le respect, et il y a la conscience de ce qu'on fait. Aujourd'hui, nous allons surtout regarder les versets 28 et 29, parce que le verset 27, il dit « C'est pourquoi celui qui mangera ou qui boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de Christ. » Donc, il est important pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire de prendre la table du Seigneur indignement. Et donc, il va nous expliquer, il va nous faire comprendre comment le prendre correctement. En fait, il y a deux impératifs. Il y a un premier où il dit que chacun s'éprouve soi-même. Verset 28, il dit que chacun s'éprouve soi-même. C'est la première chose. Et c'est un ordre, ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Quand tu es présent, que chacun s'éprouve soi-même. Et nous allons revenir là-dessus, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Et puis la deuxième partie, il dit de manière indirecte, et verset 29, il dit « Celui qui mange et boit sans discerner le corps de Christ, mange et boit un jugement contre lui-même. » Donc, qu'est-ce que je comprends? C'est qu'il faut discerner le corps de Christ lorsque nous prenons. Hein. Donc il y a ces deux aspects. Le premier aspect, c'est s'éprouver soi-même. Et puis le deuxième, c'est de discerner le corps de Christ. Donc le premier aspect, il dit, et ceux qui ne le font pas, et si ça n'a pas été fait, il dit, le verset 30, il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et un grand nombre sont morts. Il n'explique pas plus que cela, mais tout ce que je comprends, c'est qu'il y a des conséquences hein, de le faire, parce que c'est un manque de respect, et surtout quand il s'agit du corps de Christ. Bien sûr, lorsqu'il parle là, il dit, vous voyez le verset 32, il dit, « Quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Donc il ne s'agit pas de la perdition éternelle. Hein. C'est-à-dire on est jugement, on est puni, mais on n'est pas, c'est pas une condamnation avec le monde, et c'est pas un jugement éternel, mais c'est une punition. Punition dans le sens de ne pas le faire souffrir, mais dans le sens de correction. Hein. Et donc, parce que Dieu est un Dieu d'amour, et il veut nous rappeler, il me dit, écoute, on ne plaisante pas avec ces choses-là. Donc le premier aspect, c'est prouver soi-même, j'ai appelé ça l'introspection, hein. L'introspection. L'Église à Saint-Denis a prêché sur ce passage aussi, hein, au mois de. C'était au mois de. février, mars, je crois que c'était en mars. Donc vous pouvez retrouver là sur le site de l'église de Saint-Denis, hein, vous trouvez la prédication sur ce passage. Et j'ai réécouté la prédication qui a été faite par le pasteur Bixby. Et j'en ai tiré quelques idées parce qu'il avait des bonnes idées. Parce que ce qu'il a souligné, c'est qu'il y a l'introspection, il y a lorsqu'on s'éprouve soi-même, il y a une bonne manière, il y a des bonnes manières de faire et il y a des mauvaises manières de faire. Hein. Tout le monde ne s'évalue pas correctement. Je dois m'éprouver, je fais de l'auto-évaluation, mais je dois le faire correctement. Les mauvaises manières de s'évaluer. Eh bien, certains veulent s'évaluer en fonction de la manière dont ils sont perçus par les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si je vois que les gens pensent du bien de moi, je me dis, je dois être pas mal. Et donc, comme je suis considéré comme étant bien, eh bien donc, je suis bien. C'est faux. On ne base pas sur ce que les gens pensent de nous et comment ils nous évaluent. Parce qu'il se peut que les gens pensent du bien de nous parce qu'ils ne savent pas tout sur moi. Hein, je me dis, personne ne sait les choses qui me concernent. Le pasteur n'est pas au courant. Et personne n'a vu. Et puis même ceux qui le savent, ils se taisent. Parce que moi aussi, je pourrais parler sur eux. Et alors, tout est bon, il y a la paix, on est content, tout le monde est content, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et oui, mais vous savez, le Seigneur, il sait. Hein, c'est la table du Seigneur. Si c'est vous venez chez moi à la maison, pensez ce que vous voulez de vous-même et de moi. Je vous sers quand même, hein, parce que c'est ma femme qui fait la cuisine. Non, mais c'est... On reçoit. Mais là, c'est la table du Seigneur. Vous savez, l'une des souffrances de Christ à laquelle on ne pense pas souvent, c'est la souffrance que Christ avait en se promenant en Palestine et de pouvoir voir ce qui était dans les pensées et les cœurs de chacun. Heureusement pour nous, déjà la vie elle est assez dure. Mais si en plus vous pouviez circuler et savoir ce que les gens pensent de vous, ça serait une souffrance. Parce que déjà, de temps en temps, on entend ce que les gens pensent de nous et puis ça nous travaille pendant une semaine. Et après, on pense des choses d'eux. C'est très humain, mais là... Mais vous savez, quand on se présente devant le Seigneur, ce n'est pas une question de comment nous sommes perçus par les autres, mais c'est comment Dieu me perçoit. Est-ce que si j'ai péché, est-ce que je l'ai confessé? Confessé à ceux qui en sont au courant. Et parce que si... J'ai pas confessé, il n'y a pas de pardon. Hein. Le pardon vient avec la confession. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Si j'ai pas confessé le péché, il n'y a pas de pardon. Et s'il n'y a pas de pardon, ces choses ne sont pas en règle. Surtout si j'ai pas confessé au Seigneur. Si j'ai pas de pardon, en tant que chrétien, on considère que tu vis dans le désordre. Hein. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Après, il y a ceux qui s'évaluent selon leurs propres critères. Pour moi, ça, ce péché, c'était pas très grave. Il n'y a pas que moi, il y en a d'autres, tout ça. Et puis on commence, j'ai fait de mal à personne. Vous êtes sûr que j'avais fait de mal à personne? Parce que... S'il y a des personnes qui sont au courant, même s'ils disent rien, j'ai réduit mon impact, mon témoignage auprès d'eux. Je vise personne, mais je prends un exemple. Vous avez vu un frère, il a pris une cigarette. Bon, c'est pas le pire des péchés, hein, c'est pas ça, c'est pas un péché moral, mais c'est un esclavage. Et j'ai vu le frère, et puis, mais lui, il ne sait pas qu'il m'a vu. Moi, je ne sais pas qu'il m'a vu. Lui, il n'a pas dit qu'il m'a vu, moi, mais il m'a vu. Mais lui, dans sa tête, ça reste. Et si jamais un jour j'ai l'audace de dire à tout le monde, vous savez, la cigarette, c'est pas bien, hein, faut pas. Vous savez, lui, qu'est-ce qu'il pense dans sa tête? Il dit, mais moi, je l'ai vu lui-même, il l'a fait. Hein, vous savez, j'ai pas de témoignage. En fait, l'autre, il n'entend pas cette parole-là. Il ne peut pas l'entendre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose. Vous savez, quand il y a un péché, tandis que, je me rappelle, il y a un frère à l'église de Saint-Denis, il avait un gros problème d'alcool, et j'en parle parce que lui, il en parle maintenant. Pendant quelque temps, il n'en a pas parlé, il l'a couvert pendant longtemps. Moi, je savais, personne d'autre savait. Mais finalement, il a réglé la chose, il en a parlé, il l'a confessé. Et maintenant, il en parle librement. Pourquoi ? Parce qu'un péché pardonné, on peut en parler. Un péché qui est encore couvert et qu'on essaye de couvrir, eh bien, on ne peut pas en parler. Et il n'est pas réglé. Hein, donc, il dit, et vous savez, à partir du moment qu'il y a des choses qui existent encore dans ma vie, eh bien, je ne peux pas exhorter quelqu'un par rapport à cela, je ne peux pas le reprendre. Pourquoi ? Parce que j'ai le même problème. Hein, je ne peux pas reprendre quelqu'un pour sa colère si moi, tous les temps en temps, j'explose. Hein. Finalement, parce que je ne règle pas certaines choses dans ma vie, eh bien, je diminue mon impact auprès d'une portion de la population. Or, si je vais dans une autre ville où personne ne me connaît, là, vous savez, je prêche tranquillement, hein, personne ne me connaît, donc je peux dire, je peux faire tout ça. Et c'est pour ça que celui qui vient de plus de 100 km, ben c'est toujours c'est un spécialiste parce qu'on ne sait rien sur lui. Tandis que c'est difficile d'être prophète dans sa propre patrie parce qu'on sait tout sur la personne. Et nous avons besoin. Et si nous voulons, et vous savez, et surtout à la table du Seigneur. Déjà dans l'Église, il faut avoir un témoignage, il faut pouvoir avoir ça, mais surtout à la table du Seigneur. Parce que c'est là où ça représente la croix, c'est l'endroit où on pense au péché qui est expié, alors on ne peut pas venir avec du péché, alors qu'on est en train de commémorer le sacrifice pour le péché. Puis il y a aussi la troisième manière de s'évaluer, c'est en s'excusant ou en se justifiant, en disant ben, « personne n'est parfait, hein. Moi je sais que je crois, je sais que j'ai été baptisé, écoute, moi il n'y a pas de problème, c'est bon ». Est-ce que c'est bon? Moi, je me considère comme un chrétien sincère. Moi, je sais, moi je connais mon cœur, les autres, ils pensent ce qu'ils veulent. Moi, ce qu'ils pensent, ça ne me regarde pas. Ce qu'ils pensent, c'est important ce qu'ils pensent, parce que c'est le témoignage. Le Seigneur a dit, vous serez mes témoins. Un témoin, s'il n'a pas une vie, il ne peut pas être témoin. Si les autres ne peuvent pas regarder sa vie et voir... Dans un sens, le chrétien, il doit vivre dans une maison de verre. Hein? Jésus-Christ l'a fait. Mais si on est toujours obligé de tirer les rideaux dans notre vie, on n'a pas de témoignage. Hein? Vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, moi, là, je trahis mon âge hein, quand je parle des lampes à pétrole, avec le verre, là, puis la petite mèche. Et puis si la mèche n'est pas bien réglée, tout d'un coup, ça s'enfume, il y a la suie à l'intérieur du verre, et puis il n'y a plus de lumière. Et ce n'est pas la peine de faire, il n'y a rien à faire, on éteint tout, on nettoie, on taille la mèche, et on reprend. Ben, c'est ça que chacun doit faire dans sa vie. S'il veut avoir un témoignage, un rayonnement, eh ben, on arrête, on nettoie le verre, on taille la mèche, on met du pétrole, et puis... Et puis on rallume. Et puis là, on a un témoignage. Hein. Les enfants d'Israël dans l'Ancien Testament, ils étaient le peuple de Dieu. Dieu a dit, vous êtes le peuple de Dieu. Il les avait délivrés de l'Égypte. Ça, c'est personne ne mettait cela en doute. Même les habitants de Jéricho, 40 ans plus tard, lorsque les espions sont arrivés à Jéricho, Rahab, la prostituée, elle a dit... « Oh non, mais on sait que Dieu il vous a délivré de là-bas et nous, on tremble. » Mais cela ne les excusait pas de vivre en obéissance au commandement de Dieu donné par Moïse. Et ils étaient obligés, c'est pas parce qu'ils s'étaient appelés le peuple de Dieu qu'ils pouvaient faire n'importe quoi. Et ils ont beaucoup souffert dans le désert parce que, pas parce qu'ils étaient le peuple de Dieu, mais parce qu'ils étaient désobéissant. Et Dieu n'a pas changé. Et on a parlé une fois du péché d'Acan. Acan a péché, personne n'a vu. Lui, il s'est débrouillé. On en a parlé même jeudi soir à l'étude biblique. On a parlé de comment Acan, il s'était débrouillé de voler tout un sac de marchandises et de le cacher et personne n'a rien vu. Il a vraiment bien fait. Mais Dieu a vu. Et Dieu a dit, moi, je ne travaille plus avec vous. Je ne peux pas travailler. Non. Il y a de la désobéissance, je ne peux pas travailler. Et vous savez, c'est vrai de chacun d'entre nous. Il a dit, c'est pour cela que certains parmi vous sont malades, d'autres sont infirmes. Mais je ne dis pas que tous les malades, c'est parce qu'à cause du péché. Mais certains peuvent l'être. Hein, donc on ne généralise pas, on ne va pas accuser quelqu'un parce qu'ils tous, tout d'un coup, « Ah, qu'est-ce que tu as fait cette semaine ?» Hein, ce n'est pas, hein, c'est pas comme ça. Mais certaines choses, on attrape certaines choses, on a le cancer parce qu'on vit dans ce monde et ce monde, il est ce qu'il est. Et puis après, mais il y a d'autres choses qui peuvent être le résultat. Vous savez, lisons dans 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. Et je vais lire les versets 17 à 19. Il dit, « Si vous invoquez comme père celui qui juge selon les œuvres de chacun sans favoritisme, il dit, si vraiment vous croyez que Dieu est un Dieu qui juge justement chacun selon ses œuvres, eh bien conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Il dit, si vous le croyez vraiment, eh ben, faut que ça ait de l'effet dans votre vie, dans votre pratique. Verset 18, vous savez que ce n'est pas par les choses périssables, par l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut, sans tache. Vous savez, on aime bien lire les versets 18 et 19. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Il nous a pardonnés, nous sommes rachetés. Alléluia. Et c'est vrai. Mais il dit, parce qu'il l'a fait, eh bien, verset 17, il ne faut pas l'oublier, conduisez-vous avec crainte. C'est-à-dire, soyez obéissants. Cette introspection... pratiquement parlant, hein, elle doit se faire avant d'arriver ici à l'église. Hein, le jour quand la table du Seigneur sera servie, et on va en convenir d'un jour, ce sera annoncé, et tout le monde pourra se préparer, mais on se prépare à l'avance. Hein, on se dit, mais oui, bah, écoute, parce que c'est important d'avoir ce moment, et régulièrement ce moment où on est obligé de s'arrêter et de faire une inspection. C'est bon pour la santé spirituelle. C'est une bonne pratique. Et parfois, on est tellement, en tant que chrétien même, parfois on est tellement emballé par la vie, on ne s'arrête jamais pour régler les choses. Il faudrait le faire tous les soirs, hein, c'est bien de rester à jour. Mais de temps en temps, dire, ah, mais non, c'est la table du Seigneur et j'aimerais bien prendre part. Eh bien, il faudrait que je mette tout en règle avant de venir. Vous présentez, vous avez un problème avec quelqu'un, et puis il y a rendez-vous chez lui, manger chez lui. Mais vous savez, entre le temps de l'invitation et le temps du rendez-vous, hein, l'heure, eh bien, vous savez qu'il y a eu un problème entre vous. Qu'est-ce que vous faites ? Ou bien j'annule. Parce que on n'a pas réglé les choses, hein, on est un peu fâché entre nous. Ou bien vous l'annulez, vous dites, écoute, vous savez, les choses ne vont pas entre nous, là, alors je ne vais pas venir chez toi, on annule. Ou bien vous dites, pour ne pas annuler, je vais aller voir le frère, on va régler la chose, on va mettre tout en ordre. Comme ça, le jour du rendez-vous où on doit manger ensemble, on pourra manger tranquillement et bénéficier, hein, pas juste... manger de la nourriture, mais passer un bon moment ensemble. Hein, c'est différent, c'est pas la même chose. vous voulez manger la nourriture, allez au restaurant. Hein. Il n'y a personne qui vous parle, vous mangez tranquillement. Mais quand on va chez quelqu'un, chez un frère en particulier, et puis on passe ensemble, le but, ce n'est pas de la nourriture. Mais le but, c'est d'être ensemble, de s'encourager mutuellement. Hein. Donc, on se prépare à l'avance, et puis on ne pense pas à l'autre, on pense à soi-même. Hein. On ne dit pas, ben j'espère qu'un tel, il va régler ça hein, avant dimanche. Non, je pense, est-ce que Steve va régler son problème avant dimanche? C'est ça qui est important. Je parlais de mauvaise manière. Vous savez, des fois, on est obligé d'enseigner, le négatif, il nous permet d'enseigner des choses, mais il y a la bonne manière aussi de s'évaluer. C'est s'évaluer selon l'enseignement biblique. C'est pas seulement selon les traditions baptistes, parce que ça n'a rien à faire. Hein. Quand on arrivera au ciel, le Seigneur ne connaîtra même pas le mot baptiste. Il dit, vous êtes mes disciples ou pas? Hein, vous arrivez là-bas, moi je suis de l'église baptiste. Il dit, quoi? Moi je ne connais pas. Tu as vu ce mot dans la Bible? Il dit, non, je n'ai pas vu. Ben alors, laisse tomber. Ça ne fait pas partie du vocabulaire biblique, céleste en tous les cas. Mais bon, entre nous, les humains, on a toutes sortes de problèmes, donc on a inventé des mots pour exprimer nos problèmes. Hein, donc, mais vous savez, c'est s'évaluer selon la parole. C'est-à-dire, comment s'évaluer selon la parole? C'est de prendre un miroir, parce que dans Jacques, il nous dit que la Bible est un miroir. Il dit, tu vas dans le miroir et tu regardes. Normalement, chacun d'entre nous, avant de sortir de la maison le matin, on va regarder dans le miroir. Parce qu'on sait que ce qu'on va voir dans le miroir, c'est ce que les autres vont voir. Hier, je monte dans la voiture avec ma femme. Elle me dit, tu t'es rasé? Pourquoi, tu as vu quelque chose? Bien sûr que je me suis rasé. Tu sais à quelle tête j'aurais si je ne m'étais pas rasé? Mais elle a vu un poil. Elle me dit, tu t'es rasé. L'être humain, c'est quelque chose. Elle n'a pas vu tous ceux qui étaient rasés. Elle a vu celui que j'ai oublié. Et, vous savez? Mais c'est ça que tout le monde va voir, dans un sens. Et je dis, ah, ben écoute, tu n'as pas vu que je me suis rasé. Non, elle me dit ça, mais c'est parce que c'est ce que le miroir, si j'avais mieux regardé dans le miroir, et le miroir m'aurait dit aussi, il te manque quelque chose. Hein. Puis les gens, c'est ça qu'ils vont voir. Hein. Tu sors, c'est ça qu'ils vont voir. Il dit, oh, lui, il a raté quelque chose. Mais vous savez, on doit prendre la parole de Dieu, on doit la lire, et quand la parole me dit que ça ne va pas, eh bien, je dis, bah, on casse le miroir. Mais ça ne change rien, hein, c'est pas en cassant le miroir que ça règle le problème. Pas plus que lorsque vous conduisez, vous savez, vous qui avez les permis, puis il y en a d'autres qui rêvent au permis, mais vous avez le permis là, et puis après il y a le tableau de bord là. Et sur le tableau de bord, il y a des petites lumières qui peuvent s'allumer. Hein, quand il manque d'huile, quand le frein on l'a oublié, ou des choses petites. On dit, oh, c'est de la lumière, elle m'embête, hein. Prenez le marteau, tapez dessus et puis elle s'éteint, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça règle le problème? Non. On s'arrête et on règle le problème. On veut savoir ce que c'est. Mais vous savez, dans la vie chrétienne aussi, hein, je lis la parole et je vois, et me dit, il y a une petite lumière qui s'allume, et me dit, oh, t'as vu ça dans ta vie? Ah oui, mais il y en a d'autres. C'est pas un problème. Que toutes les autres voitures sur l'autoroute manquent d'huile, c'est pas mon problème. C'est que ma voiture manque d'huile. C'est mon problème. Hein, c'est ça que je dois voir. Et donc, regardez avec moi dans Jacques. Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1. Et je commence à lire au verset 22. Parce que nous sommes en train de lire hein, la Bible. Certains essayent de la terminer en un an. D'autres vont essayer de faire deux ans. Peut-être d'autres, ça prendra trois ans. Mais on veut lire la parole. Et au verset 22, donc Jacques, chapitre 1, verset 22, il dit « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » S'il en parle, c'est que c'est possible. Et même, c'est pas seulement que c'est possible, mais que ça se fait, ça se pratique. Il dit, verset 23, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt ce qui en était. » Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais qui se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et je dis, oui, dans le premier chapitre de l'Apocalypse dit « Heureux celui qui lit la parole ». L'Apocalypse, il faut la lire et puis on ne comprend pas trop. Mais on lit, il y a une bénédiction. Mais qu'il y a d'autres passages, quand on les lit, ce n'est pas seulement « ben moi j'ai lu, hein, je suis bien ». Non, non, c'est lire et mettre en pratique. Hein, c'est important, écouter. Hein, ce n'est pas seulement « ah ben j'étais à l'église, hein, j'ai entendu le pasteur, il a parlé ». C'était intéressant, je ne sais plus de quoi il a parlé, mais bon, je crois que c'était bien, j'ai un bon souvenir, j'ai un feeling pas mal. Non, non, écoute, et puis ensuite on met en pratique. Sinon, il a dit, ça ne sert à rien, hein, c'est comme regarder dans un miroir, et puis je vois qu'il reste encore du petit déjeuner là, et puis je laisse et je continue. Et puis, s'évaluer en lisant la parole, ce n'est pas seulement... la lettre, mais l'esprit de la parole. Parce que vous savez, les pharisiens à l'époque de Jésus, ben eux, ils disaient, non, nous, on pratique la loi, ils coupaient même les cheveux en quatre pour pratiquer la loi correctement. Et puis, ils étaient contents d'eux. Non, non, nous, on est juste. Et Jésus était obligé de leur dire, vous savez, vous avez lu, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis, parce que ce n'est pas une question de ce que vous pensez que le texte dit, ce qui importe, c'est ce que Dieu voulait dire quand il l'a dit. C'est ça qui importe. Hein? Mais il n'y a marqué nulle part dans la Bible, tu ne fumeras pas. Donc, il ne l'a pas dit, donc on le fait. Ben, tu peux penser comme ça. Mais est-ce que tu es sûr de ce qu'il pense, lui? Hein, c'est ça le truc. Bon, y a plein de choses qui ne sont pas mentionnées. Et il dit... Tu prendras point de drogue. Il n'y a pas de ce verset là. Non, non, mais il n'y a pas marqué. Mais quel est l'esprit de la chose, hein? L'esprit, c'est d'être dominé par quelque chose. Hein? Il dit, soyez, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Il ne dit pas, c'est interdit de boire du vin. Il dit, ne vous enivrez pas de la vin. Soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est-à-dire, il faut que ce soit l'esprit de Dieu qui domine sur vous et non pas l'alcool. C'est comprendre l'esprit de la chose. Il dit dans 2 Corinthiens 3, 6, il dit, il nous a aussi été rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Hein, je peux prendre la Bible et puis je condamne et je dis à quelqu'un, mais toi tu es pourri, tu es bon à rien, tu es mauvais chrétien, allez, sors d'ici. Et en utilisant des versets bibliques. Tandis que si je comprends l'esprit de la parole, il dit, écoute mon frère, c'est pas bien ça. Mais je comprends, parce que moi j'ai eu mes luttes aussi. Écoute, je veux t'accompagner, je veux t'aider, on va avoir la victoire, que le Seigneur t'aide et que tu puisses remonter. Ça c'est l'esprit de la chose. Je prends le même verset. Mais l'esprit de la chose, c'est la restauration. Tandis qu'on peut prendre ce même verset, puis condamner, juger et démolir. Vous savez, il y a une chose que je tire de ce passage de 1 Corinthiens 11, et je dois le dire ici, c'est que le Seigneur n'a pas prévu que des chrétiens ne participent pas à la table du Seigneur. C'est une ordonnance, c'est un ordre pour tous les chrétiens de participer à la table du Seigneur. Donc, se priver de la table n'est pas une solution. Il se peut qu'il y ait un moment où ça ne va pas, et donc je m'abstiens, mais ce n'est pas se priver régulièrement, constamment. Et puis on se justifie, on dit, mais moi, je montre du respect, là, je ne veux pas... Non, ben écoute, si tu as un problème qui t'empêche de prendre la table, règle le problème pour que tu puisses répondre. C'est une ordonnance du Seigneur. Imaginez maman qui met la table pour ses enfants, et puis il y a un enfant qui, chaque fois qu'elle met la table, il reste dans la chambre. Et elle va le voir. Il dit, pourquoi tu ne viens pas à table? Je vous ai tous appelés. Tu n'as pas entendu? Si, j'ai entendu. Mais non, je ne veux pas venir. Pourquoi tu ne viens pas? Eh bien, parce que je sais, j'ai été tellement désobéissant, tout ça, alors, bon, par respect pour toi, je t'aime beaucoup, alors je viens pas. Et dit, mais écoute, commence à être obéissant, comme ça tu pourras venir à la table, parce que ça fait plaisir à nous tous que tu sois à table avec nous, pour toi et pour nous tous. On veut être tous ensemble. Et donc, je comprends que certaines choses ne se règlent pas d'un jour à l'autre, et puis certains attendent le jour de leur baptême, et certains attendent d'autres choses, mais dans la pensée, je veux me préparer pour participer à cette table. C'est ça la pensée dominante du passage. Il ne leur dit pas, mais vous faites les choses de travers. Arrêtez, ne faites plus. Vous n'êtes pas digne. Non, il dit, non, corrigez votre vie pour que vous puissiez le faire correctement. Et là, c'est la meilleure manière d'exprimer notre respect et notre amour pour le Seigneur. Ça, tout ça, c'était pour s'éprouver soi-même. La deuxième partie, c'est de discerner le corps du Seigneur. La montre va plus vite aujourd'hui que d'habitude. Discerner, et nous allons aller rapidement, mais dire ce qu'il faut dire quand même. Discerner le corps de Christ, lorsque nous prenons part à la scène, c'est reconnaître le sacrifice de Christ. C'est là. C'est pas le dire, bon, ben je prends ça, et bon, il a servi. Le pasteur, il a bien fait, il a servi le pain d'abord, et puis il a versé la sainte, c'est bon. Non, c'est pas ça que je dois penser. Je dois penser, mais c'est ça, ça représente que Christ est mort pour moi. Et le discerner, ce n'est pas sans conséquence. Hein, c'est pour ça qu'il nous dit, si vous ne le faites pas correctement, vous serez jugé. Pas par le pasteur, mais par le Seigneur lui-même. Parce que c'est sa table à lui, hein, ce n'est pas la table du pasteur. Le pasteur, il se présente au même titre que les autres. L'apôtre, au verset 22, il a parlé de... Il dit, méprisez-vous l'Église de Dieu. C'est-à-dire que de prendre ça n'importe comment, dans un sens, on méprise. On dit, c'est pas grave. Ce n'est pas une attitude. C'est comprendre, discerner le corps de Christ, c'est comprendre que ce corps appartenait à un juste... Quelqu'un qui ne devait pas mourir. Même Pilate, il a dit, mais il n'a rien fait. Pourquoi je vais le tuer? Pilate, quelqu'un d'aussi tordu que lui, qui pouvait tuer sans avoir du remords. Il pouvait condamner quelqu'un, un innocent, et puis bien dormir la nuit. Hein. Mais il a dit, mais cet homme-là, il n'a rien fait. Pourquoi? Il l'a tué, il l'a fait mettre à mort, mais pour d'autres raisons, hein, pas parce que Jésus était... digne. Et Jésus, en plus, pas seulement qu'il était juste devant les hommes, mais il était juste devant Dieu, ce qui est encore plus important. Vous savez, si le sacrifice était grand, c'est parce que le péché était grave. Ainsi, c'est une chose, déjà, sacrifier un agneau, vous savez... C'est pas drôle, hein, il y en a eu tellement dans l'Ancien Testament, et c'est déjà grave, mais là c'est déjà assez grave. Mais que ce soit Christ, que Dieu sacrifie son propre Fils, alors on dit, mais bon, c'est que lui perçoit ça comme quelque chose de très sérieux. Hein, et je dois méditer là-dessus. Je dis, il a fait ça pour moi. Moi, si j'excuse mon péché, je méprise le sacrifice de Christ sur la croix. Je me dis, wow, il a fait ça, mais c'était du gaspillage, hein, parce que moi, je ne suis pas si mauvais que ça, hein, moi, je suis pas mal. Et je ne sais pas pourquoi il a été jusque-là, hein, il aurait pu faire pour moins que ça. Ben, c'est pas le discerner le corps de Christ, je suis pas en train de rentrer, de comprendre pourquoi ça s'est passé. Et surtout, quand je justifie mon péché, on l'a déjà dit tout à l'heure, ben, je me prive du pardon de Dieu. Hein, et si je n'ai pas le pardon de Dieu, ben, je n'ai rien, hein. Est-ce que je saisis la réalité de l'importance de la mort de Christ sur la croix? Est-ce que je comprends que c'est par amour pour moi qu'il est mort? Est-ce que je pénètre la pensée que si Jésus n'était pas mort sur le mont du Calvaire, je serais sans espoir et irrémédiablement perdu? Est-ce que je le saisis? « Est-ce que je sais que cette table symbolise la communion qui est rendue possible par le sacrifice de Christ sur la croix? La scène me rappelle que Christ est mort pour moi. Hein, et c'est important. Et que je me le rappelle. Et parce que l'être humain est un être oublieux. Eh bien, Jésus a dit, il y a une chose que je veux faire. Vous vous réunissez régulièrement. Il ne nous a pas dit à quelle fréquence. Il n'a pas dit que c'était une fois par mois, ni une fois par semaine, ni une fois par an. Il n'a rien dit. Il a dit, ce que vous avez besoin de faire, c'est de vous retrouver régulièrement pour vous rappeler que si vous avez le salut, si vous avez les péchés pardonnés, si vous pouvez avoir accès et prier à Dieu et être entendu par Dieu, c'est parce que Christ est mort. Ici, je lis dans le verset 31, il dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Il ne parle pas des autres chrétiens, il parle de Dieu. Parce que Dieu châtie ceux qu'il aime. Nous savons que nous avons nos enfants, nos partenaires. Nous avons des nouveaux dans l'Église qui arrivent, qui sont en train d'observer, qui regardent. Hein, c'est tout nouveau, ils regardent. Et puis nous avons le monde qui nous observe. Et puis ils jugent. Ils jugent. Ils se font une idée. Et ils se font une idée de Jésus-Christ. C'est ça le plus terrible. Combien, vous savez, la plupart des gens qui ont rejeté Dieu dans leur vie, ce n'est pas à cause des pécheurs et à cause des musulmans ou à cause des hindous ou à cause d'autre chose, c'est à cause du comportement des chrétiens, vous savez. Il y a plus de gens qui sont choisis d'être athées ou agnostiques en tous les cas, mais à cause des chrétiens, de ceux qui se réclament de Dieu. Hein? Ils jugent et ils tirent des conclusions. Et j'ai déjà, en discutant avec ça, j'ai dit, écoute, si j'étais à ta place, j'aurais fait la même chose. Tu as tout à fait raison. Mais où tu te trompes, c'est que Dieu n'est pas comme ça. Et ce que tu dois aller vers Dieu et pas vers les chrétiens, mais tu vas vers Jésus-Christ. Notre vie doit être telle que nous commandons le respect. Sur la terre, nous sommes appelés par Christ à être plus que des rachetés, des disciples de Christ. Une fois dans le ciel, vous lisez dans l'Apocalypse, il parle des rachetés. Parce que c'est tout ce qui compte là-haut. Mais ici, sur terre, pendant que nous sommes sur terre, nous sommes appelés à être des disciples, des témoins. C'est-à-dire que les gens doivent pouvoir nous regarder et tirer des conclusions. Et que ça aille dans le bon sens, qu'ils tirent les bonnes conclusions. Et donc, ça dépend énormément de notre vie. Vous savez, celui qui vit pour le Seigneur et qui est pur, il n'a pas besoin de le déclarer et de dire « moi je suis un bon chrétien ». Il n'a pas besoin de le dire. Les gens, même les gens du monde, ils peuvent le juger. On n'a pas besoin d'être bruyant. On n'a pas besoin de faire un tapage. On a besoin juste de vivre. Les gens savent observer. Le plus grand des, dans le langage humain, le plus grand des pécheurs parmi les hommes, hein, langage humain, chez Dieu il n'y en a pas, mais chez le langage humain, eh bien il reconnaît quelqu'un qui marche fidèlement pour le Seigneur. Il peut, n'importe lequel. Et c'est ce que nous devons vivre. Je termine avec ce passage dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Et je lis les versets 14 et 15. Il dit, Philippiens 2, 14 et 15, il dit, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, et voilà, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Il dit, ne vous occupez pas du fait qu'il fasse nuit, qu'il soit spirituellement, il fait nuit autour de nous. Il dit, ce que moi je veux, c'est que vous soyez des flambeaux, que vous brillez. C'est ça qui importe. On ne maudit pas la nuit, mais on fait tout pour que la flamme brille. C'est ça qu'il demande. Hein? Et c'est ce que le Seigneur demande. Et là, c'est ça l'aspect de la vie chrétienne. C'est celle que nous devons vivre. C'est celle que le Seigneur demande de nous. Et c'est à chacun de faire cette auto-évaluation, de se dire, mais moi, par rapport à ce que j'étais, je suis là. Ah, c'est bien, alléluia, merci Seigneur. Il dit, oui, mais où est-ce que je devrais être? J'ai perdu du temps. Tout à l'heure, Français parlait du fait que, à cause de la désobéissance, eh bien, on a tourné en rond, on n'a pas bénéficié de certaines choses. Mais Seigneur, mais je sais où je devrais être, je ne suis pas là encore. Je voudrais tendre vers cela. Aide-moi. Je veux confesser mon péché, je veux abandonner certaines choses dans ma vie, je veux vivre pour toi, je veux être libre par rapport aux gens de pouvoir parler de n'importe quoi dans la Bible, n'importe quel sujet, et je n'ai pas l'impression que les gens me disent « Ouais, ben regarde-toi toi-même. Hein. » Je voudrais être libre de vivre pour toi pleinement, de briller et qu'il n'y ait pas des côtés sombres dans ma vie. Je dis « Mais Steve, tu demandes beaucoup. » Ben, vous savez, les gens, quand on essaye de vivre pour Christ, il nous pardonne pas mal de défauts. Mais c'est eux qui nous pardonnent, pas nous. C'est pas à nous de justifier nos problèmes, mais c'est à eux de pardonner nos défauts. Ils sont généreux. C'est comme vos enfants. Ils savent que les parents ne sont pas parfaits, mais si les parents le reconnaissent, ils leur pardonnent. Mais si les parents ils font semblant que tout est bien, bon, les enfants ils disent ils profitent du fait qu'ils sont parents pour les imposer. Oui, mais c'est pas. Vous savez, les gens sont. Vous savez, il y a quelque chose. Dieu a mis quelque chose dans le cœur humain. Qu'il n'a pas mis dans le reste des créations du monde, il a mis quelque chose là, cette notion de la justice et de ce qui est droit. Et nous devons le respecter. Nous allons prier. Mais avant de prier, je veux qu'on prenne un moment de silence, de réflexion, que chacun, dans son cœur, tout seul, devant le Seigneur, eh bien, qui parle au Seigneur, qui lui dise des choses. On ne va pas attendre, prendre le risque d'attendre ce soir, parce qu'on risque d'oublier. Mais que chacun se sente libre, celui qui a envie de dire quelque chose au Seigneur, de le dire maintenant, puis ensuite je prierai. Seigneur, nous ne sommes qu'une petite poignée de personnes ici dans cette ville et pour l'instant, nous n'allons pas regarder aux autres. Ce que nous voulons, c'est nous regarder nous-mêmes et que nos yeux soient fixés sur toi. Comme dit l'Épître aux Hébreux, toi l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est toi qui es mort sur la croix. Et donc c'est vers toi que nous voulons regarder parce que c'est en toi qu'est notre espérance et en toi qu'est notre salut. Et tu as été généreux en te donnant toi-même pour nous racheter. Mais maintenant, c'est à nous d'être généreux, de nous donner tout entier à toi. De ne rien retenir pour nous-mêmes, mais tout te donner, Seigneur. C'est seulement lorsque nous nous serons donnés à toi, que l'Église pourra être un bon témoignage de qui tu es. Les gens ne peuvent pas te voir, mais ils peuvent te voir au travers de ceux qui se réclament de toi. Et Seigneur, nous ne voulons pas mal te représenter, nous voulons te représenter correctement. Seigneur, fais ton œuvre dans nos cœurs. Tu sais quel est le besoin de chacun. Nous sommes chacun différents. Nous sommes à des stades différents. Certains se posent des questions. Certains luttent. D'autres se pensent à certaines choses dans leur vie. Et puis, Seigneur, mais que nous puissions tous nous regarder à toi. Ce n'est pas ce que les autres pensent, c'est ce que ta parole dit de ce que nous sommes qui importe. Et c'est toi, tu es prêt à nous pardonner le passé, si nous sommes prêts à le confesser, et tu es prêt à nous aider, nous accompagner pour que nous puissions marcher dorénavant à ta gloire. Père, nous te prions, et tu entends les prières des uns et des autres, et la requête qui a été exprimée, et puis d'autres qui n'ont pas été exprimées. Seigneur, tu entends, veuille répondre, veuille aider cette personne à vraiment vivre pour toi. Père, je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère François.